le bilan de la dernière journée, on est maintenant avec, on a maintenant 94 cas de personnes qui sont infectées au coronavirus. Donc, c'est une augmentation de 31 par rapport à la journée précédente. Parmi ces personnes, il y en a 6 qui sont hospitalisées, dont 4 aux soins intensifs. Malheureusement, on a un premier décès au Québec. C'est une personne âgée qui vit dans Lanaudière. Je veux évidemment le transmettre toutes mes sympathies à la famille et aux proches de cette personne. Je veux aussi vous dire que toutes les mesures ont déjà été prises pour retracer toutes les personnes qui ont été en contact avec cette personne qui est décédée. On a actuellement 3600 personnes qui sont sous investigation, 5200 qui ont eu un résultat négatif. Maintenant, on va augmenter aujourd'hui notre capacité à 3000 tests par jour et d'ici vendredi, on va augmenter à 5000 tests par jour. Et on a assez d'équipements, incluant les écouvillons et toute la capacité d'analyse de laboratoire pour augmenter donc ce nombre de tests. Vous dire aussi, je sais qu'il y a eu des délais d'attente qui étaient un peu longs au 8-1-1. Aujourd'hui, on passe de 400 à 450 infirmières qui répondent au 8-1-1 et on va en ajouter 150 infirmières de plus demain pour répondre au 8-1-1. Mais je veux demander aux Québécois, là, être bien clair, commencez par appeler au 1-877-644-4545 et les cas qui nécessitent de parler avec une infirmière pour un test, vont être transférés du 877 au 811. Donc, c'est important là que tout le monde appelle le 1-877. Je comprends qu'une fois qu'il y a un transfert au 811, il y a eu, puis il y a encore des délais qui peuvent être longs, mais comme je vous dis, on passe de 400 à 450 infirmières juste pour répondre au 811, puis demain, on en ajoute 150. Il faut prendre quelques jours pour former ces personnes-là. Bon, évidemment, il faut regarder les choses en face. C'est certain que le nombre de personnes infectées augmente. Il faut être prudent quand on regarde la progression, parce que, étant donné qu'on fait plus de tests, c'est normal qu'il y ait plus de personnes infectées, mais je peux vous dire là que les mesures qu'on a mises en place au cours des derniers jours, ça fonctionne, ça ralentit la progression du virus. Donc, faut pas baisser la garde. On va au cours des prochains jours regarder s'il faut ajouter à ces mesures, mais bon. Je veux peut-être revenir sur les rassemblements, pas de rassemblements, incluant tous les lieux de culte. C'est important de le préciser. Puis, bon, je veux aussi dire aux personnes qui nous écoutent, je comprends qu'il y en a qui peuvent être inquiètes, angoissées. C'est normal là, d'avoir de l'anxiété. Mais je pense entre autres aux personnes âgées qui sont seules à la maison. Il n'y a aucun risque de contracter le virus si vous êtes seul à la maison, si vous ne rencontrez pas d'autres personnes. Donc, je veux juste le répéter. Je veux dire aussi à tous les Québécois que notre réseau de la santé est prêt. On a actuellement 6 personnes qui sont hospitalisées, mais on a, en retardant certaines chirurgies, on a actuellement 2300 lits qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'on est capable de passer de 6 à 2300. Là. Donc, il y a toute une marge là avant de penser que le système de santé soit congestionné, puis on peut augmenter... Daniel le disait hier, on pourrait délester jusqu'à 6 000 lits pour accueillir les personnes qui auraient éventuellement le coronavirus. Donc, je veux vous dire, on a la capacité en lit, on a toute la capacité aussi en équipement pour les prochains jours, les prochaines semaines. Puis je peux vous dire, là, je parle à beaucoup de gens du réseau de la santé, le personnel soignant est plus mobilisé que jamais et prêt si la situation s'accélère dans les prochains jours. Là, le réseau de la santé est très prêt. Et puis, encore une fois, merci à nos anges gardiens, là, mais ils sont là. Si jamais la situation s'accélère davantage au cours des prochains jours, le réseau, puis le personnel, nos anges gardiens sont prêts. Bon, je comprends qu'il y a certaines inquiétudes chez les travailleurs qui continuent de travailler. Par contre, c'est important que la société continue de fonctionner, qu'on continue à produire les biens, les services, surtout ceux qui sont plus essentiels. Donc, on a des bonnes discussions avec le docteur Arruda à cet effet-là. Ça se peut que les consignes ajoutent des fermetures au cours des prochains jours, mais pour l'instant, on a besoin de vous autres. Là. Donc, je veux lancer aujourd'hui un message à tous les travailleurs, travailleuses. Faites attention à vous. Restez toujours à 1 ou 2 mètres des autres personnes, de vos collègues de travail. Bon, maintenant, j'ai vu tantôt les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement fédéral. Je suis content de voir ces mesures. C'est une bonne nouvelle. On va aider les individus. Le gouvernement fédéral va aider les entreprises. Et le gouvernement fédéral a réussi à avoir une entente avec le gouvernement américain pour que les personnes ne circulent plus à la frontière. Ça inclut évidemment les touristes, tout en ménageant les biens. Il faut que les biens continuent de circuler. Puis le gouvernement américain est d'accord avec ça. Oublions pas qu'on est encore en hiver. Donc, beaucoup de fruits et légumes qui viennent des États-Unis, beaucoup de médicaments qui viennent des États-Unis. Donc, ça, c'est sous contrôle. Mais on n'aura plus de touristes américains qui vont entrer au Québec. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. On a eu une rencontre ce matin avec Chrystia Freeland puis les premiers ministres de toutes les provinces. Donc, on a eu l'occasion de partager des mesures, des situations. On a continué à discuter d'économie. Je pense que il y a un bon travail qui se fait par toutes les provinces puis le gouvernement fédéral. Je veux bien sûr remercier hier tous ceux qui ont répondu à mon appel, donc les artistes, les sportifs, j'oserais dire même les humoristes, même ceux qui se sont moqués de moi, ça fait du bien de rire, je peux vous dire ça. Et puis, continuez les messages, là. Faut continuer à rejoindre le plus possible tous les Québécois, incluant les jeunes, puis de dire d'être prudent, puis de pas faire de rassemblement. Donc, je veux sincèrement vous remercier. J'ai été impressionné par la solidarité, là, puis j'étais chez moi hier soir, là, très content de voir ça sur les médias sociaux. Donc, un énorme merci. Donc, je termine en vous disant, chaque geste compte pour ralentir la propagation du virus. Chaque geste peut sauver des vies. Donc, soyons prudents, il faut en faire plus que moins. La bataille va être dure, la bataille va être longue, elle fait juste commencer, mais je suis convaincu qu'ensemble, on est capable de la gagner, cette bataille. Merci.
Merci, Monsieur le Premier ministre. Pour la période de questions, on dispose d'une période d'environ 30 minutes. On va commencer avec Alain Laforêt, TVA.
Bonjour. La personne qui est décédée, est-ce que c'est quelqu'un qui rentrait de voyage ou on parle de contamination communautaire?
Bon. Je vais laisser M. Arruda. Vous allez comprendre là, qu'on veut être prudent parce qu'on ne veut pas faire paniquer personne. Donc, je vais laisser M. Arruda.
Premièrement, vous comprendrez que j'ai une très, très grande préoccupation en lien avec la confidentialité. quand on nomme des histoires comme ça, puis probablement que ça va fuir ou ça va sortir dans les médias, mais c'est une personne qui, d'un certain âge, qui vivait dans une région, là, la Naudière, on va le dire, et qui aurait été en contact avec des gens qui auraient fait des voyages. Donc, puis après ça, vous comprenez qu'après ça, nous, dès qu'on a un cas, il y a toute une investigation qui est faite. Il y a un milieu, le milieu où était la dame est investigué, les contacts, l'histoire précise des déplacements de la dame, mais aussi des visiteurs qu'elle aurait pu avoir, des soignants, etc., est faite. Et ça devient à ce moment-là... L'information, je pense, qui est pertinente ici à vous dire, c'est que ça peut exister. Et d'ailleurs, c'est arrivé. Et on savait qu'on aurait ça. On savait aussi que ça pouvait atteindre des personnes âgées surtout, et c'est ce qui se démontre. Donc, on est là. Et on n'est pas encore en transmission active dans la communauté. Il faut comprendre qu'il est possible, ça va arriver, je l'ai déjà dit hier, qu'il va y avoir des cas qui ne vont pas avoir voyagé, mais qui vont avoir été en contact avec des voyages. Il va y avoir des cas, et c'est encore normal, de deux personnes qui ont attrapé la maladie, mais on n'a pas trouvé d'où vient la source. Mais pour parler de transmission communautaire soutenue, on n'en est pas là. Ça prend trois générations de cas. Bon, il y a des façons de faire, puis ça peut être différent, par exemple, dans une ville versus une autre. Puis ce que je trouverais à vous dire, c'est très important. Le premier ministre a dit que c'est une bataille qui va être longue et dure, mais il ne faut pas lâcher. Au contraire, je tiens à vous le dire, là, il ne faut surtout pas, puis j'ai véritablement parlé à mes équipes de santé publique, même si ça va être très demandant d'appeler chacun des cas et des contacts, même s'il faut faire 200 appels autour d'un cas, par jour, on va mettre les ressources nécessaires pour vérifier si les gens font de la température et prendre des mesures. On est encore dans la bataille au cas à cas, je tiens à le mentionner. Et les mesures qu'on met en place de la population sont très importantes aussi pour nous aider à maintenir ça le plus longtemps possible. C'est avec ça qu'on va retarder, aplatir la courbe. Donc, je vous demande véritablement, comme le premier ministre, de continuer la bataille. Et il faut comprendre qu'une mesure qu'on met en place... Ça ne veut pas dire que tout le monde le fait le premier jour, mais il y en a qui retardent. Puis s'il y en a qui retardent trop, on verra ce qu'on fait. Mais ça prend 12 jours avant de voir l'effet sur la courbe. Donc, ce n'est pas parce qu'on va voir demain probablement une quantité X. J'ai un chiffre en tête que je ne mentionnerai pas parce que je regarde les hypothèses et les scénarios. J'ai un chiffre en tête pour demain. Ça ne veut pas dire que parce que demain, on aura plus de cas qu'aujourd'hui ou une quantité plus grande en termes d'augmentation par rapport à hier, qu'on a perdu la bataille. C'est très important, donc, que les mesures qu'on met en place, qui sont très contraignantes, et on le sait, sont nécessaires encore. C'est pas parce que maintenant, on va avoir des cas en augmentant qu'il faut se dire c'est le temps de lâcher. C'est le temps d'aller encore plus loin. Et j'exhorte tous ceux qui entendent nos messages de faire leur possible. J'aimerais dire aussi, il faut arrêter aussi de fonctionner comme habituellement. Je vous donne un exemple. Peut-être d'arrêter d'utiliser l'argent comptant qui peut être contaminé. Prenez plutôt vos cartes de crédit et à débit. Faites-vous livrer des choses si vous pouvez plutôt là en termes de commandes que de se déplacer, particulièrement quand on est une personne à risque. Puis dans les faits aussi, ce que je veux vous dire, c'est que je veux remercier tous les gens, toutes les personnes âgées qui font des sacrifices en écoutant nos consignes. On a tous besoin d'être proches de nos personnes qu'on aime. Moi, je suis séparé de ma famille, mais c'est pas le temps parce que, justement, ce comportement-là peut entraîner des contaminations. On peut contaminer quelqu'un sans le savoir, particulièrement sur les tests symptomatiques. Et les gens qui reviennent de voyage, je vous le dis, même si vous pensez que vous l'avez pas, c'est très important de s'auto-isoler. Si jamais vous avez des symptômes, allez consulter. N'allez pas contaminer nos personnes à risque. On ne le répétera pas assez. Aussi, pensez pas que les masques, c'est une solution miracle. Ce qui est important, c'est l'étiquette respiratoire si on est malade pour ne pas contaminer les autres. Et c'est l'hygiène des mains. Porter un masque, c'est le mettre à sa main souvent pour ajouter le masque et on se contamine. Les masques, c'est pour le système de soins où il y a des protocoles pour les mettre, des protocoles pour l'enlever. C'est aussi la même chose avec les gants. Quand on porte des gants qu'on a touchés à tout, si on ne l'enlève pas adéquatement, on se contamine. Le gant ne remplace jamais le lavage de mains, même en unité de soins. C'est difficile à comprendre, mais soyez assurés. Et on doit maintenir nos masques pour protéger les personnes malades qui pourraient contaminer d'autres, c'est-à-dire les empêcher de contaminer d'autres et protéger nos travailleurs de la santé. Les autres, je ne porte pas de masque, je lave mes mains. Je lave mes mains et si je suis malade, je viendrai pas ici, je contaminerai pas le premier ministre ici qui a besoin d'être ici pour contrôler le bateau. C'est pour ça qu'on se lave les mains. On se lave pas les mains de la situation, on se lave les mains parce que c'est ce qui peut sauver des vies. Merci.
Qu'en est-il des recommandations pour le personnel soignant qui est enceint, les gens qui sont enceintes actuellement dans le réseau de la santé? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des consignes? Et pour ceux aussi qui vont à domicile, il y en a beaucoup qui vont à domicile, encore, qui font du porte-à-porte.
Le 13 mars 2020, ben, on a demandé l'avis à l'Institut bien avant ça, mais le 13 mars 2020, sur le site de l'Institut national de santé publique, vous verrez les recommandations qui sont encore effectives. Il faut voir que ces recommandations peuvent évoluer selon l'état de l'épidémiologie locale. Actuellement, même si la femme enceinte n'est pas nécessairement plus à risque de complications ou que ce n'est pas un tératogène, ça veut dire que ce n'est pas un virus qui crée des cancers, en tout cas, notre connaissance des malformations, la fièvre chez la femme enceinte est un phénomène qui peut entraîner par elle-même de cette infection ou l'autre élément. Donc, dans le contexte actuel de non-circulation du virus dans la communauté, par contre, en milieu de soins, les femmes enceintes, on ne veut pas les exposer à des endroits où il y a eu du COVID-19. On peut les réaffecter dans l'hôpital à un autre endroit comme tel, parce que c'est à l'urgence qu'on peut les réaffecter à l'urgence. Il y a des... Donc, dans le fond, le principe général, si je peux résumer, puis ceux qui veulent avoir des détails, allez sur le site de l'Institut, vous allez avoir les conditions. Là. On ne veut pas que des femmes enceintes fassent le ménage d'une chambre. Par exemple, une travailleuse qui fait le ménage d'une chambre où il y a eu un patient de COVID-19. On ne veut pas qu'un préposé aux bénéficiaires enceintes rentre dans une chambre où il y a du COVID-19. On ne veut pas qu'une femme enceinte, infirmière, donne des soins à un patient atteint de COVID-19, mais elle peut encore donner des soins selon les autres protocoles de retrait préventif. Donc, on n'expose pas en milieu de soins. Même, par exemple, si quelqu'un décède du COVID-19, on ne veut pas qu'un thanatologue enceinte vienne manipuler un corps qui est atteint de COVID-19. C'est de la prévention prudente. Parce que même si la femme enceinte attrape la maladie, elle n'est pas à risque comme les personnes âgées, mais on prend aucune chance. Ça peut changer. Advenant le cas qu'il y a une situation où il y a une circulation intensive qui ferait qu'il pourrait y avoir des gens porteurs dans tout l'hôpital, la chose pourrait évoluer. Et donc, actuellement, on n'expose pas nos femmes enceintes à des zones où on pense qu'il y a eu du coronavirus ou qu'il y a du coronavirus. Et après, il y a eu un patient qui était avec du coronavirus.
Non, pour ceux qui sont à domicile.
Non, Hugo Lavallée, Radio-Canada, merci.
Ceux qui sont à domicile, si c'est pour aller donner un soin à quelqu'un qui a du coronavirus, c'est pas le cas. Par contre, il peut y avoir les autres conditions, là, les autres les éléments de retrait préventif que je ne veux pas discuter ici. Là, tout dépendamment de la quantité de transport, si c'est très loin en termes automobile pour se rendre. Là. Mais ça, c'est géré comme d'habitude.
Concernant la personne décédée, est-ce qu'on peut savoir si c'est une personne qui était dans une résidence pour personnes âgées, un CHSLD, par exemple? Est-ce que
elle était dans un établissement pour personnes âgées. Je ne veux pas cibler la catégorie, si vous me permettez. Puis c'était quelqu'un qui avait des facteurs de risque importants aussi antérieurement.
Puis les gens qui revenaient de voyage avaient des symptômes là, quand ils l'ont rencontré, c'est ce qu'on comprend.
Vous comprenez que j'ai appris qu'il y a eu un décès il y a à peu près moins de 2 heures. Et je sais qu'elle a eu une exposition à quelqu'un qui revenait de voyage. Mais est-ce que la personne qui est exposée avait des symptômes ou pas? Je ne suis pas en mesure de répondre à ça. Mais de toute façon, si elle avait des symptômes, ça pourrait arriver que c'est avec du monde qui n'a pas de symptômes. C'est pour ça qu'on a décidé, de façon difficile, d'empêcher les visites dans les centres d'accueil pour personnes âgées. Parce qu'on veut, comme disait Mme Blais, on veut protéger ceux qu'on aime. Puis on sait qu'on demande un sacrifice, puis qu'on change ce qu'on dit habituellement. Mme Blais dit toujours, allez voir vos personnes âgées, allez voir vos personnes âgées. Mais la situation est assez sérieuse. C'est une question de vie ou de mort.
Monsieur Legault, concernant la question des frontières, donc on comprend que vous êtes satisfait de ce qui a été annoncé ce matin par Justin Trudeau. Il y a des gens, par contre, qui s'inquiètent des déplacements interprovinciaux, dans la mesure où il y a des provinces qui sont beaucoup plus touchées que d'autres. On pense à la Colombie-Britannique, il y a des vols entre Montréal et Vancouver qui sont maintenus. Est-ce qu'il y a lieu d'apporter des restrictions à ce type de circulation-là? Et toujours sur le même thème, êtes-vous inquiet du fait que des demandeurs d'asile continuent d'entrer au pays via le chemin Roxham?
Oui. Bien, pour l'instant, on ne veut pas empêcher la circulation entre les provinces, mais c'est pas impossible qu'on le fasse éventuellement. Pour l'instant, on ne pense pas que c'est nécessaire. Concernant le chemin Roxham, c'est pas acceptable. On ne peut pas laisser entrer de façon illégale des gens sans au moins les mettre en quarantaine. Donc, j'ai déjà discuté à quelques reprises de ça avec le gouvernement fédéral.
Olivier Bossé, Le Soleil.
Vous dites que vous avez tout le matériel. Pourtant, le laboratoire hier a émis une lettre disant que les écouvillons, il fallait les économiser. Monsieur Arruda a dit allons-y, utilisons les masques le moins possible. Donc, les gens peuvent avoir l'impression qu'il va y avoir une pénurie de matériel.
Oui, bien écoutez. Ça a fait partie des discussions, justement, avec les premiers ministres des différentes provinces. Ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est d'estimer le pic, hein, le moment où on va atteindre le pic, là, où il y aura le plus de personnes qui sont infectées, qui ont besoin de soins. C'est pas une science exacte, et puis... Je pense qu'il y a autant de réponses que le premier ministre là, au Canada. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est de prévoir d'avoir assez d'équipements pour le pic. Donc, il y a des commandes qui s'en viennent et puis on est confiant d'être capable de passer au travers. Mais le matériel qu'on a actuellement, il n'y a pas d'inquiétude pour les prochains jours, même les prochaines semaines. Mais quand arrivera le pic, est-ce que ça sera dans un mois, dans deux mois? Bien, c'est ça qu'on essaye de travailler actuellement. On n'exclut rien. Là. Même commencer à ce qu'on regarde dans les pires scénarios, est-ce qu'on peut, avec des chercheurs puis des entreprises manufacturières, en faire nous-mêmes certains des équipements. Mais c'est pas pour les prochaines semaines. Il n'y a pas de problème dans les prochaines semaines. Mais ça pourrait arriver, dépendamment du scénario qui est envisagé. Mais il n'y a pas de problème là, des couvillons dans les prochaines semaines.
Et au rayon de peut-être des bonnes nouvelles, ça fait trois semaines, je crois, le premier cas au Québec. Est-ce qu'il y a des gens qui sont guéris du coronavirus au Québec?
L'information que j'ai, parce que vous comprendrez que même si on les sait guéris, on veut avoir la confirmation de deux tests de laboratoire négatifs à un certain intervalle. On a une personne à date qui guérit.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelle.
Est-ce que vous songez, compte tenu de la réalité qu'on connaît, là, un premier décès d'une personne qui a été contaminée par une autre personne, est-ce que vous songez à des restrictions encore plus importantes sur la circulation des gens? On pense, entre autres, à une quantité de personnes limite dans certains commerces, comme les épiceries, par exemple.
Actuellement, on n'exclut rien. Donc, à chaque jour, on se pose la question sur les commerces. Bon, c'est certain que un service qui est essentiel, c'est la nourriture. Bon, puis il y a certaines épiceries, même dans des centres d'achat, là. Donc, c'est sûr que la dernière affaire qu'on veut toucher, c'est tout ce qui concerne la nourriture. Mais est-ce qu'il y a d'autres commerces, d'autres sortes d'entreprises à qui on pourrait exiger de fermer? Faut pas exclure ça.
Et est-ce que vous avez dit tout à l'heure, bon, de prendre au sérieux l'appel à limiter les rassemblements? Est-ce qu'il pourrait y avoir une forme de contrôle, éventuellement, de ces rassemblements-là et peut-être même des sanctions?
Ouais. Bien, comme je l'ai dit hier, c'est pas notre choix premier. Moi, ce que je veux, c'est de la sensibilisation. Puis honnêtement, là, ça a beaucoup aidé ce que les artistes, les sportifs, les humoristes ont fait hier. On a senti, puis là, j'ai eu beaucoup d'échos très positifs. Je pense qu'il y a des gens qui prenaient pas ça au sérieux, qui prennent ça au sérieux. Évidemment, ce qui nous arrive aujourd'hui, là, bon, je vais juste répéter ce que dit le docteur Arruda, on a une personne âgée qui est décédée, qui a peut-être rencontré quelqu'un qui avait voyagé. Donc, tu sais, si on avait besoin d'une preuve, là, de la gravité de la situation, ben on l'a, là.